Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man wala hila yawmiddin wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma ya kareem, Rabbi zidna ilma ya kareem, Rabbi zidna ilma ya kareem, Rabbi shahli sadri wa yassir li amri, wa ahlul aqdata min lisan yafqahu qawli. Toutes les louanges reviennent à Allah Azza wa Jal qui nous accepte ce soir pour consacrer une partie de notre soirée encore à l'étude des versets de Ayatul Kursi. Les différents versets que nous avons étudiés jusqu'à maintenant de Ayatul Kursi, on dit certains versets concernaient le Qudrat d'Allah, la force, la puissance d'Allah Azza wa Jal. C'était Allahu la ilaha illahu al-hayy al-qayyum et la ta'khuduhu sinatun wa la nawm, où on a un aperçu de la puissance de notre Seigneur et du fait qu'Allah Rabbul Izzah contrôle tout. On a vu hier avant-hier d'autres versets qui concernaient Al-Mulk, le royaume d'Allah Azza wa Jal, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, et les versets concernant le Shafa'a, ça également c'est pour l'au-delà exclusivement. Ainsi le pouvoir d'Allah et sa royauté concerne ce monde et l'au-delà, mais le jour de Qiyamah, la royauté, elle est uniquement pour Allah, Azza wa Jal. Les versets que nous allons voir ce soir concernent maintenant le ilm d'Allah. Il reste, on va dire, trois thématiques, d'accord? Si on fait un découpage de Ayatul Kursi par, c'est une approche hein, par thématique, il reste des versets en rapport avec le ilm, en rapport avec sa grandeur, la grandeur d'Allah par rapport au trône, et en rapport avec le fait qu'Allah soit Al-Hafir, c'est celui qui protège la création. A'udhu billahi minash shaitan rajim, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a. Il connaît leur passé et leur futur, et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. Ibn Kathir, rahimahullah, explique dans le tafsir al-Qur'an al-Azim, دَلِيلٌ عَلَىٰ إِحَاطَةِ عِلْمِهِ وِجَمِيعِ الْكَائِنَاتِ. La traduction elle est correcte, il connaît leur passé et leur futur, c'est-à-dire de toutes les créatures. Allah Azza wa Jal connaît le passé et le futur de chacune de ses créatures. Et ça c'est un point qui mérite, subhanallah, réflexion et toute notre attention. Il n'y a pas une créature sur terre, ins, djinn, quelle que soit la nature de cette créature, sans que ce soit Allah qui ait prédestiné sa date de naissance et son décès. Et c'est Allah qui écrit son destin. Donc Allah connaît le passé de chacun d'entre nous, connaît le présent de chacun d'entre nous, et Allah connaît le futur d'entre nous. Et ça, ça doit nous rassurer. Le fait qu'Allah connaisse notre passé, nous sommes confiants. Que très souvent on demande à ce que les gens de la société soient traités au cas par cas, mais lorsqu'on gère des quantités de personnes, on comprend bien que voilà, on ne peut pas s'attarder sur le passif et l'historique de chaque individu pour comprendre son état d'esprit, son cheminement, qu'est-ce qui l'a poussé à développer tel, enfin, là, je vais un peu loin, à développer telle pathologie, ou à devenir ce qu'il est maintenant, à avoir des appréhensions, à être un peu paranoïa, à être un peu, et ainsi de suite. Ça, c'est une étude personnalisée de la société. On peut pas avoir une étude personnalisée quand il s'agit de gérer des masses, une quantité de personnes. Mais notre Seigneur, dans sa connaissance infinie, est capable de distinguer chacune de ses créatures. Celui qui a eu une enfance malheureuse, ou une jeunesse difficile avec des épreuves et des difficultés, assurément cette personne auprès d'Allah n'est pas comme celui qui a connu ce qu'on appelle une jeunesse dorée avec tous les bienfaits, avec tout ce que la personne pouvait souhaiter, à grande aisance. Non, ces gens sont différents, leurs parcours sont différents. Ainsi, la personne qui a connu des difficultés, assurément il y a des séquelles, il y a des blessures et ainsi de suite. Et quand cette personne se présente devant Allah, Allah connaît quelles épreuves, les épreuves par lesquelles cette personne est passée. Là où on va en venir, c'est que ce verset qui nous rappelle qu'Allah connaît le passé de chacune de ses créatures, d'une certaine façon, ça nous rassure que quand je m'adresse à Allah, Allah connaît mes faiblesses et mes manquements. Allah connaît ce qui fait que je n'arrive peut-être pas à être aussi performant que d'autres personnes dans la prière de la nuit, dans la lecture du Coran, dans telle et telle action. Et le fait qu'Allah connaisse mon futur, ça me rassure également. De quelle façon? Je sais que ma vie est dans les mains d'Allah. Allah a déjà pris les décisions concernant mon avenir. Donc, je n'ai pas à m'inquiéter. Ça nous ramène, on va dire, d'une certaine façon, on va dire tout simplement, al-iman bil qada wal qadr, la foi en l'au-delà. Le fait de savoir qu'Allah connaît mon futur, ça me rassure parce que je sais que je ne dépends pas de mes choix. Imaginez que notre destin dépendait entièrement et uniquement de nos choix. C'est-à-dire que si vous vous trompez, ça arrive qu'on commette des erreurs et tout, on peut prendre un chemin totalement différent, on peut se tromper ou alors par rapport à une mauvaise décision ou autre chose. Non. Il y a Allah, Rabbul Izzah, notre Seigneur, qui a déjà écrit notre destin. Et bien sûr, on a le libre arbitre, mais en finalité, c'est ce que nous allions prendre comme décision qu'Allah savait et l'a prédestiné pour nous. Donc en finalité, notre futur est déjà prédestiné par notre Seigneur. Alors c'est peut-être un peu complexe de le présenter aussi rapidement. Ce qui nous est destiné, on l'aura, Inch'Allah. Ce qui est écrit pour nous, on l'aura. Et pourquoi il est important de le souligner et d'être rassuré, ça permet de guérir certaines maladies spirituelles comme la jalousie et la cupidité. Le fait de savoir qu'il n'y a pas besoin de faire des efforts, mais il n'y a pas besoin de produire des efforts surhumains pour avoir quelque chose ou pour, en pensant que si je fais telle chose, je pourrais avoir telle chose et je deviendrai quelqu'un d'important, sache que ton destin est déjà dans les mains d'Allah. Tu as juste à faire des du'as, à être sincère et à faire des efforts, on va dire des efforts modérés avec une confiance en Allah. Mais également, là on passe à un autre registre, le fait qu'Allah ait une connaissance aussi profonde de chacune de ses créatures, ça me rassure dans ma demande de protection. N'oublions jamais que le Ayatul Kursi est, entre autres, ce sont des versets de protection. Le fait de savoir qu'il n'y a pas une créature dont le destin n'est pas dans les mains d'Allah, et qu'Allah connaît son passé, son présent et ses futurs, ça me permet que lorsque je m'adresse à Allah, je dis « Ya Allah, telle personne me veut du mal, telle personne me cherche des problèmes ou essaie de, je sais pas, de m'humilier ou n'arrête pas de faire la médisance. » C'est-à-dire, comme on avait dit hier et avant-hier, se livrer à Allah, parler à notre Seigneur, l'expliquer nos maux Amaux, nos problèmes, tout ce qui nous cause préjudice, le fait de savoir que la créature qui te fait du tort ou qui te veut du mal, imaginez que vous avez un ennemi caché, un ennemi qui, Allah musta'an, depuis des mois, depuis des années, il essaie de vous atteindre de quelconque façon. Sache que lui aussi son destin est dans les mains d'Allah. Allah le connaît, mashallah, de la tête aux pieds. C'est Allah qui lui a donné la vie, c'est qui a prédestiné chaque instant de sa vie et qui lui donnera la mort, il retournera auprès de lui. Demande à Allah quelque chose le concernant. Dis à Allah, ça c'est khalq min khalq, c'est ta créature. Ya Rab, guide-le. Guide son cœur. Accorde-lui la compréhension qu'il arrête de faire telle chose, de me faire du mal, de souhaiter du mal, ainsi de suite. C'est-à-dire que nos ennemis, ce ne sont pas des électrons libres. Bon, c'est un peu simplé de le dire comme ça avec un langage un peu plus moderne, mais ça nous parle quand même. Nos ennemis ne sont pas des électrons libres, ce sont des créatures d'Allah, ils sont sous le contrôle d'Allah, Allah les a créés, Allah connaît leur passé, leur présent et leur futur. Donc si tu as un problème avec eux, tu t'adresses au Seigneur des mondes, celui qui a le contrôle sur chacune de ces créatures. Je reprends ce qu'Ibn Kathir dit, dalilun ala ihatati ilmihi bi jami'il kainat, preuve qu'Allah Rabbul Izzah a une connaissance globale de l'ensemble de la création, madiha wa hadiriha wa mustaqbaliha, le passé, le présent et leur futur. On veut pas ouvrir trop de parenthèses quand on parle de futur en aqida. Les savants concernant l'imam al-qadha et al-qadr, ils disent qu'Allah, il sait ma kana wa ma lam yakun law kana kayfa yakun. Vous avez peut-être entendu cette expression. Allah connaît le passé, le présent, le futur, mais également le futur conditionnel. Ça veut dire quoi le futur conditionnel? Le futur qui aurait pu être, qui aurait pu se produire si ton choix avait été différent. Ça aussi, Allah le sait. Exemple. Alors, qu'est-ce qu'on peut donner comme exemple? Exemple, je postule pour un poste à La Réunion, mais j'ai également une proposition, une candidature qui est retenue à Lyon. Je dis Lyon parce que vous êtes pour la plupart de Lyon. Et donc, je me concerte avec mes proches, je fais la salat istikhara, soit le doua avant de dormir, soit tout simplement l'invocation qu'on fait de façon beaucoup plus simple, demander à Allah de choisir et de m'aider dans mon choix. Et je prends la décision. C'est quoi la bonne décision? C'est de rester à La Réunion, bien sûr. D'accord? Je prends cette décision. Et voilà mon destin, je trace mon chemin, j'avance, il m'arrive des choses, j'ai une promotion, j'ai des augmentations, j'ai des soucis, bref. Mais si j'avais pris la décision d'accepter le poste à Lyon ou à Paris ou ailleurs, ce qui me serait arrivé, Allah Azza wa Jal le sait également. C'est-à-dire, quand on est à une croisée de chemin et qu'on a le chemin A, B, C et ainsi de suite, pour chaque chemin, Allah Rabbul Azza sait exactement quel aurait été l'aboutissement. Et le dalil ala hada, j'ai dit que je ne vais pas ouvrir cette parenthèse, mais on y est. Savant Aqida, ils font, subhanallah, ils rappellent le verset, je réfléchis, j'essaie de retrouver le verset, le verset parle, oui, voilà, je l'ai. On sait que là-haut, ça veut dire et si. D'accord? Ça, c'est une supposition, c'est quelque chose de conditionnel qui peut ou ne pas, qui peut se produire ou ne pas se produire. Et quand on a la particule là, voilà, bon, c'est la construction là-haut avec là. Ce verset concerne les gens qui, après le jugement qu'Allah nous protège, doivent aller en enfer. Et dans le Jahannam, ils invoquent, ils implorent Allah Azza wa Jal de leur donner la possibilité de retourner dans ce monde. Si quelqu'un le verset, na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal. Le début, au départ, ça ne me revient pas. Ils demandent à Allah de leur donner la possibilité de retourner dans ce dunya. نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. Et nous accomplirons de bonnes œuvres. Ils font la promesse à Allah alors qu'ils sont dans le Jahannam. Ya Rab, ramène-nous de ce dunya. Ils pensent que voilà, c'est possible. Alors qu'il n'y a plus de dunya, c'est terminé. Le jour du Qiyamah, al-Dhul Mahshar, la terre, elle est aplatie complètement. Et Allah Azza wa Jal révèle que si ils avaient eu la possibilité, ils étaient renvoyé sur terre, c'est hypothétique, c'est-à-dire c'est un futur, c'est une situation qui ne va pas se produire. Allah sait s'il leur avait accordé cette opportunité, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Ils seraient retournés finalement vers les mêmes erreurs. Ils seraient retournés vers les mêmes erreurs. Ils auraient finalement, en finalité, pris le même parcours qui était la leur au départ. Et il serait dans le kufr et la mécréance. À partir de ce verset, les savants disent que, je reprends et je conclue pour ne pas aller trop loin sur cette thématique, que même si tu prends une décision plutôt qu'une autre, Allah Azza wa Jal est capable, il connaît quel aurait été ton destin si tu avais pris l'autre chemin. C'est pareil pour tout, hein, pour le mariage, pour le travail, d'accord? Imaginez un frère qui reçoit une sœur qui reçoit deux demandes en mariage, de Mohammed et de Ishaq. Elle se marie avec Mohammed, voilà son destin, et Allah Rabbul Azza sait que si elle s'était mariée avec Ishaq, qu'est-ce qui lui serait arrivé, d'accord? Donc ça nous rassure de savoir que mon destin est dans les mains d'Allah. Qu'est-ce qu'il me reste à faire du'a, à demander à Allah de m'accorder khayr ad-dunya wal akhirah. Quand on demande Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhab an-nar, on demande l'ouverture de ce monde et bien sûr dans le delà. D'accord? Et donc, le fait de savoir que Allah connaît mon futur, je suis d'une certaine façon rassuré. D'accord? Des fois, si on reste dans le cadre du mariage, il y a des fois où on met en garde certaines personnes, attention, tu as 25 ans, c'est presque fini, c'est presque, on dit que tu es presque un produit périmé, d'accord? Personne ne voudra de toi, attention, tu es en train de prolonger, tu es en train de faire ton doctorat, c'est important, mais. Il n'y a pas à se dire que, voilà, qu'est-ce qui va m'arriver si je n'accepte pas cette demande? Est-ce que je dois me précipiter pour dire oui? Sinon, qu'est-ce qu'il en adviendra de moi? Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Doua, shura, le mashwara avec des gens compétents, stikhara, tu fais la prière de consultation, et ce qui découlera de cette prière de consultation, c'est ce qu'Allah a mis dans ton cœur. Et donc, ne t'inquiète pas, ce qui t'est prédestiné, ce qui est écrit pour toi, tu l'auras. Et ce qui ne t'est pas destiné, de toute façon, tu aurais pu faire ce que tu veux, tu ne l'aurais jamais. Et ça, c'est quelque chose de rassurant, et ça guérit la cupidité avant tout, et ça guérit d'une certaine façon également là, la jalousie. Allez, on ferme cette longue parenthèse. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. On a notre tafsir, celui de At-Tabari, rahimahullah. Imam At-Tabari, rahimahullah, il a un commentaire qui est différent. Pour lui, c'est pas la connaissance concernant chacune de ses créatures, mais pour lui, al-madi fi dunya, c'est-à-dire Allah connaît tout ce qui se passe et tout ce qui s'est passé et tout ce qui se passe dans le dunya, et il traduit wa ma khalfahum par umur al-akhirah. Allah connaît tout ce qui va se dérouler dans l'au-delà, l'étape du Akhira. Les deux tafsirs sont corrects. Les deux sont corrects et les deux montrent la connaissance d'Allah Azza wa Jal qui n'a pas de limite. Les savants disent également, quand tu prends conscience de la connaissance d'Allah, qu'Allah ya'lamu al-ghuyub, celui qui connaît l'invisible, qui connaît tout, dit ya'lamu halaka wa abtila'aka wa huznaka wa hajataka. Allah connaît tes besoins, Allah connaît ta détresse, Allah connaît ta souffrance, Allah connaît ta tristesse, Allah connaît tout te concernant avant même que tu n'aies besoin de tout lui raconter. Donc ne t'inquiète pas. Tu as au-dessus de toi un Seigneur qui est clément, miséricordieux, qui est bienveillant envers ses créatures et qui est attentif, qui ne dort pas, qui ne somnole pas, qui reste, subhanallah, avec ses makhlouqas, qui surveille et qui gère sa création. Et donc, quand tu as le cœur gros, le cœur lourd, sache que le seul qui connaît réellement ce que tu ressens, c'est ton Seigneur Azza wa Jal. La solution maintenant, c'est quand on a des situations, des preuves qui sont intenses, c'est d'orienter nos cœurs vers celui qui te l'a prédestiné, cette épreuve. Et celui qui connaît plus que toi-même ce que tu es en train de vivre est le seul qui est capable de solutionner ton problème, parce que le dénouement du destin est dans ses mains, Azza wa Jal. هذا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. Et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Alors, la traduction est très lourde. Je pense qu'il peut y avoir une meilleure traduction. Le sens du verset, Ibn Kathir dit, Allah Rabbul Izza a la connaissance totale. Bien sûr, la connaissance de tout. Et Allah accorde une partie de la connaissance à qui il veut. Et la création, les créatures, ne peuvent connaître que ce qu'Allah Rabbul Izzah veut bien leur donner comme connaissance, veut bien leur accorder. Et cela va dans le sens du verset « Fala yadharu ala ghaybihi ahada » et personne, le sens du verset, la traduction approximative, personne, aucune créature ne peut connaître le rêve, l'invisible, car c'est quelque chose qui est propre à Allah, illa manir tada mir rasulin, à l'exception d'eux, sauf ceux à qui Allah a décidé de leur donner une partie de cette connaissance. Ça peut être un prophète, ça peut être l'ange qui apporte la révélation. Il y a que le ilm est dans les mains d'Allah et Allah accorde une partie de la connaissance des choses à qui il veut. Je regarde l'heure, est-ce qu'on entame Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal-ard? Oui, on peut. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal-ard. Là, on passe à on va dire, une autre thématique. Là, on avait la thématique de la connaissance d'Allah et on a vu qu'est-ce que ça nous apporte de savoir qu'Allah connaît tout. Et on avait vu avant que tout est dans le mulk d'Allah et dans le royaume et dans la royauté d'Allah. Et les versets du début, que tout est dans et sous le qudrat d'Allah. Allah est capable de tout concernant l'ensemble de ses créations parce qu'il est toujours là. Il est attentif, il a toujours existé, il existera toujours. Il est celui qui a la vie éternelle, al-hayy, al-qayyum, celui qui gère chacune de ses créations. Donc ces différentes thématiques me rassurent et me permettent de savoir que tout est dans ses mains et je dois orienter mon cœur vers lui. Et cela renforce ma conviction sur la grandeur de mon Seigneur. Nous allons voir maintenant un verset en rapport avec justement sa puissance. Parce que des fois, l'être humain peut essayer, on va dire, de comprendre qu'Allah est omniscient et ala kulli shay'in qadir, est capable de tout, celui qui voit tout, celui qui entend tout, qui sait ce qu'il y a dans les cœurs, son royaume dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Mais on a parfois besoin d'une image pour avoir une idée dans l'espace. Je ne dis pas de la grandeur d'Allah, mais de la grandeur de sa création. Ça va jusqu'à où ? Ça s'étend de quelle façon ? Et Allah révèle des versets concernant le Kursi. Alors, là-dessus, il y a beaucoup de choses à dire, mais nous ne dirons pas grand-chose. Parce que le Kursi, tout comme le Arsh, le trône d'Allah, ainsi que le Kursi, font partie des créations d'Allah qui sont dans le monde de l'au-delà, dans Fil-Akhira. Et nous ne pouvons réellement comprendre comment sont ces créations parce que cela n'appartient pas à notre monde. Je vous donnerai un exemple. Il est mentionné que l'ange Jibril alayhi salam, je dois juste vérifier le hadith et les sources, qu'il aurait 600 ailes. Je dois vérifier le chiffre 600. Et que une seule de ces ailes, s'il devait la déployer, remplirait tout ce qu'un être humain peut voir jusqu'à l'horizon. Ça remplirait toute la surface de la terre dans certaines versions. On parle de la grandeur de l'ange Jibril alayhi salam. Ça nous donne une idée. Tout comme il y a d'autres textes, mais ça j'avais pas prévu de parler de ces hadiths concernant les anges qui sont au niveau du trône d'Allah, la distance qu'il y a, c'est un hadith stipule entre telle partie de leur corps, leur épaule jusqu'à leur oreille. Là aussi c'est une description, on va dire, avec des termes humains, mais pour avoir une idée, jusqu'à leur genou, jusqu'à leur cou plutôt, c'est une distance de je sais pas combien, et je n'ai pas le hadith en tête, mais tout ça c'est pour qu'on ait une idée de la grandeur. Jamais on a des descriptions concernant notre ilah, concernant dhatullah, concernant la personne d'Allah, abadan. Ça c'est parce que laysa kamithlihi shay, on n'a même pas réfléchi sur notre Seigneur lui-même, sur l'étendue de son pouvoir, de ses noms, de ses qualités. Oui, ça nous a été révélé à nous de l'étudier. Mais Allah nous donne parfois des indications concernant ce qu'il a créé et qui est proche de lui et qui est dans l'au-delà pour qu'on réalise la grandeur du Khaliq. C'est-à-dire que la réaction, c'est si telle est la création d'Allah, qu'en est-il du Créateur? Si l'ange Jibril est aussi immense, qu'en est-il de celui qui a créé l'ange Jibril? Si les anges qui sont au niveau du trône d'Allah sont aussi immenses, qu'en est-il du Seigneur des mondes? Voilà donc l'idée. Je vais juste vous dire que le Kursi et le Arsh sont deux choses, deux entités différentes. D'accord? Et il y a pas mal de textes, et moi je vais juste vous lire un hadith qui résume cela. Qala alayhi salatu wa salam wa alladhi nafsi biyadih. Et ça fait suite au hadith qu'on avait cité hier concernant ce monde et tout ce qu'il contient par rapport au premier ciel, et avec la métaphore de une bague qui est jetée dans un champ, d'accord, pour qu'on comprenne que c'est insignifiant les cieux, la terre, tout ce qu'il contient par rapport au premier ciel, et ainsi le premier ciel par rapport au second, troisième jusqu'au septième ciel. Donc ça c'est de la conduite de ce hadith. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَسَّمَاوَاتِ سَبْعٍ, par celui qui détient mon âme dans ses mains, je jure que les sept cieux et les terres par rapport au kursi, c'est insignifiant. Illa ka halaqatin mulqatin bi ardun fala. C'est comme une bague ou un anneau qui est jeté dans un terrain vague. Là, on parle de quoi là? De la terre et des sept cieux comparé au kursi. Et le verset s'appelle Ayatul Kursi. Et le prophète dit wa inna fadl al arshi ala al kursi. Il dit que la grandeur du trône d'Allah par rapport au kursi, c'est comme ce terrain vague justement par rapport à cette bague ou cet anneau qui a été jeté. Donc ça nous donne un aperçu. Ibn Kathir cite beaucoup de hadiths, hein, pas mal de hadiths sur cette thématique, mais nous on ne va pas les développer. Ça nous donne un aperçu de la grandeur de la création d'Allah, et ça nous guide pour comprendre la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Na'am. Et le kursi, le arsh, tout comme on va dire certains éléments de la révélation qui sont en rapport avec les qualités d'Allah, il est parfois mieux juste d'écouter et de dire amanna wa saddaqna, nous croyons ce qu'Allah nous a révélé, et pas forcément essayer de comprendre, parce que les gens qui ont essayé de tout comprendre, en finalité ils n'étaient pas dans une quête de connaissances religieuses, mais ils étaient dans une quête de clarification. Et quand on veut clarifier quelque chose qui est en rapport avec l'au-delà, ça veut dire forcément qu'on veut que cette révélation ou cette information passe dans les filtres de notre connaissance d'être humain, et qu'on arrive à le comprendre à l'échelle humaine, chose qui n'est pas possible. Ainsi, quand on parle de certaines qualités d'Allah, le fait que, par exemple, Sifatun Nuzul, le fait qu'Allah descend dans le dernier tiers de la nuit au ciel de ce monde, ça fait partie des choses, ça fait partie des informations qu'Allah nous a accordées et qui nous permet normalement de prendre considération de l'importance du dernier tiers de la nuit, du Qiyamul Layl, et des doigts qu'on doit faire dans le Tahajjud. Maintenant, des gens se sont égarés en essayant de comprendre comment est-ce possible, et en allant très loin dans l'analyse spatio-temporelle, mais plus spatio, en se disant que voilà, si Allah vient au ciel, comment est-ce qu'Allah peut descendre, et ainsi de suite, ce n'est pas possible, parce que, c'est-à-dire qu'ils ont essayé de comprendre cet élément de la révélation, je le redis, à travers la compréhension humaine, chose qui n'est pas possible. Les sahaba n'ont pas discuté de ça, mais des philosophes l'ont fait, et ça a donné des courants de Mu'tazila qui sont partis très loin dans l'égarement, d'accord, parce qu'ils ont voulu tout rationaliser. Pareil pour Al-Istiwa, le fait qu'Allah soit établi sur le trône, et il y a eu des ouvrages et des divergences, et des savants qui se sont tourné le dos, qui se sont déclarés mutuellement être de la perdition, alors qu'on n'avait pas allé, ils n'avaient pas allé aussi loin. On a juste à accepter et se dire laysa kamithlihi shay, rien n'est semblable à Allah Azza wa Jal, et nous acceptons ce qu'Allah nous a révélé. Le but, c'est de créer une motivation dans l'accomplissement des bonnes actions, et non pas d'essayer de tout décrypter. C'est pour ça qu'on ne va pas loin dans l'explication concernant le kursi et la comparaison avec le trône, mais juste le hadith est suffisant pour qu'on comprenne que ce sont des entités différentes, et le trône d'Allah est beaucoup plus grand et immense par rapport au kursi. Qu'Allah Azza wa Jalla nous permet de comprendre ces quelques paroles et de réaliser l'étendue de sa connaissance, le fait que sa connaissance soit infinie, et que nous développions encore plus de husnudhan billah, de pensée positive, et de azamatullah, que la puissance et la grandeur d'Allah pénètrent nos cœurs, afin que lorsque nous lisons ces versets de protection, nous ayons entièrement confiance que notre Seigneur est capable de nous protéger. Et c'est le verset que nous verrons et que nous lirons, incha'Allah, demain. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim. Qu'Allah accepte ce majlis, cette assemblée, augmente notre iman et nous permet de parfaire nos jeûnes pour nos frères et sœurs de la métropole. La rupture du jeûne est dans 10 minutes ou 15 minutes. N'oubliez pas les invocations, et qu'Allah nous accepte tous. Jazakum khair. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير.